bienvenue sur le podcast de l'Institut V qui va à la rencontre des professionnels de la gastronomie végétale. Je suis Karine Castro et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour vous présenter Claire Brachet. Claire est spécialiste des vins nature et de ses accords avec la cuisine végétale. Après quelques années d'activité parisienne, elle s'est installée dans le Lot-et-Garonne pour y développer son entreprise de traiteur qui s'appelle désormais La Sauvagière. Elle conseille également les professionnels dans les accords de vin et de cuisine végétale et a écrit le guide Brachet des vins véganes et végétaliens qui s'adresse à tous les professionnels et amateurs de bon vin. Avec La Sauvagière, Claire souhaite porter des valeurs de liberté dans le respect de la nature en laissant le temps au temps. Dans cet épisode, nous avons parlé de vin, bien sûr, mais aussi de cuisine végétale et de l'importance de bien accorder ces deux univers. Je suis ravie de vous présenter Claire et sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Bonjour Claire.
Bonjour Karine.
Comment vas-tu?
Ça va.
Ça va.
Et toi?
Ouais. Je suis contente de te parler. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ça fait quelques années. Hein. Je regardais au moins 3 ans, je pense. Hein.
Oui, c'est vrai que ça commence à... juste après que j'ai quitté Paris, je crois.
Oui. Ouais, ça, le temps passe vite. Et je me souviens de notre première rencontre autour d'une interview pour Graines de Papy, où tu m'as fait découvrir l'univers des vins naturels. J'ai découvert plein de choses grâce à toi. C'est un univers que je connaissais assez mal et tu m'as fait découvrir un univers complexe mais passionnant en même temps. Voilà, qui a plein de choses, plein de potentiel en tout cas à montrer.
Oui.
Alors pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, quel est ton parcours? Parce que moi je te connais, mais j'imagine qu'il y a plein de gens encore qui ne te connaissent pas.
Eh bien, volontiers. Donc, je suis Claire Brachet. Je suis la fondatrice de La Sauvagière, qui est une entreprise tout à la fois de traiteur et de conseil et de formation autour de la cuisine végétale et des vins naturels. Donc, anciennement, cette entreprise, au départ, s'appelait W Vins et Végétal, mais j'ai changé de nom, peut-être qu'on reviendra dessus par la suite, pour X raisons. Donc ça, c'était vraiment un changement de carrière, presque un changement de vie par rapport à mon expérience professionnelle antérieure, puisque moi, je viens vraiment d'un milieu très différent. Je viens à la base de la recherche en sciences politiques, je suis passée par le privé, enfin voilà, j'ai eu pas mal d'expériences très diverses, mais finalement la cuisine, la convivialité, le vin aussi dans sa dimension très culturelle et environnementale presque m'ont rattrapé à un moment. Et donc il y a un peu plus de 5 ans, j'ai décidé d'aller au bout de ce qui me faisait vibrer et de me jeter dans le grand vide de l'expérience entrepreneuriale. Mmh.
Du coup, effectivement, ta première entreprise s'appelait W Vin et Végétal. Aujourd'hui, elle s'appelle La Sauvagière, comme tu l'as dit. Quelle est la grande différence entre les deux activités? Quelle a été, comment tu définis cette transformation?
C'est avant tout lié à mon changement de cadre de vie, on va dire, puisqu'au départ, quand j'ai créé W, donc on habitait à Paris et j'étais partie vraiment sur une activité très urbaine, vraiment sur du conseil auprès des professionnels, accompagner les restaurants, les cavistes, etc., pour les aider à faire se rencontrer la cuisine végétale et le vin. Et puis, entre-temps, nous avons quitté Paris pour nous installer dans un milieu, on va dire, de plus en plus rural. Ça s'est fait un peu par étapes. Et déjà, donc, mon activité avait un peu changé. Là, depuis 2 ans, je développe la partie traiteur. Vraiment, qui prend de plus en plus d'importance dans mon activité. La partie conseil en prend un petit peu moins. Alors, en termes de temps, parce qu'au niveau financier, ça c'est différent, mais en termes de temps en tout cas, et dans ce que j'ai envie de faire. Et puis, mon cadre de vie aussi, ce que j'ai envie de transmettre dans l'endroit où on habite, nos pratiques, où on essaie d'aller vers, on va dire, un peu la low-tech, la low-food, d'aller dans un autre rapport un peu plus résilient à l'environnement. Finalement, voilà, W correspondait plus trop, n'était pas très compris aussi dans l'environnement dans lequel je me trouve maintenant auprès de mes potentiels clientes et clients. ça faisait pas traiteur, enfin voilà, ils comprenaient pas trop. Donc petit à petit, ça a maturé très longtemps, plusieurs mois. Et finalement, voilà, la sauvagière s'est un peu imposée comme étant quelque chose un peu de prendre un peu sa liberté et de une mention au rapport avec la nature aussi un peu différent et de marquer la différence aussi globale sur ma vie et sur cette activité donc de traiteur qui est plus importante.
Alors, on comprend effectivement, il y a le côté nature qui est très fort, l'envie de revenir un peu aux sources finalement. Pourquoi en particulier le vin nature? Pourquoi tu as eu envie de te spécialiser là-dedans en particulier?
Ça vient vraiment de mon expérience familiale et professionnelle, enfin personnelle, pardon. Moi, donc, je viens d'une famille où il y avait d'un côté une restauratrice et de l'autre côté un viticulteur. Donc, la cuisine et le vin, ça a toujours été lié dans ma famille et dans ma vie. Le fait de changer d'alimentation, puisque petit à petit, je suis devenue végétarienne puis végétalienne, n'a pas enlevé ce lien que moi, je faisais assez spontanément avec le vin comme étant un élément gastronomique important et culturel aussi et au sens aussi de ce que ça fait au niveau environnemental, etc. Et je me suis rendu compte en changeant d'alimentation qu'il n'y avait pas forcément de lien, même au contraire, que la cuisine végétale et le vin se parlaient très peu, que les accords étaient toujours très carnés. Ouais. Et donc déjà, ça a été mon premier point d'accroche, faire se parler ces deux univers. Et puis le vin naturel, parce que c'est du raisin, on n'est pas sur un produit hyper transformé avec des additifs, avec des engrais, avec des pesticides, enfin tout ce que peut le vin conventionnel peut avoir d'assez problématique. Et on est sur une approche beaucoup plus très respectueuse, douce, mais très exigeante. Du vin et au-delà de ça de la nature. Donc c'est toute la philosophie aussi qu'il y a derrière qui m'a complètement parlé.
Est-ce que c'est ça qui démarque vraiment le vin nature par rapport aux autres vins?
Oui, il y a vraiment un positionnement, se dire j'interviens pas dans la cave, je vais pas user de tel ou tel produit pour rectifier un vin qui part mal ou une fermentation qui se passe mal. Je mets tout, c'est la vigne qui est importante, donc je fais très attention à ma vigne, mais je la respecte, c'est-à-dire je mets pas des produits phytosanitaire dedans, je respecte la vie qu'il y a dans la vigne, les animaux, les insectes, voilà, je les laisse exister. Et par contre, je surveille de très près et je laisse le temps aux choses de se faire. Je ne fais pas une cuvée en quelques semaines, s'il faut plusieurs mois, j'attends plusieurs mois. Donc, on est dans un rapport, effectivement, à une philosophie assez différente.
Oui, et un rapport au temps aussi différent.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de vins? Parce qu'on a tendance aussi à s'y perdre parfois entre nature, bio, biodynamie, il y a toutes ces dénominations et parfois même des labels. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de vins?
Alors, ça risque d'être un peu long, je vais essayer d'être synthétique.
Mais oui.
Enfin, de toute façon, tout est résumé dans mon livre.
Oui, on en parlera après.
Ouais. Donc, il y a le vin. Ce qu'on appelle le vin conventionnel, c'est le vin classique qu'on trouve le plus facilement dans les grandes surfaces, etc. Le vin qui n'a pas de label particulier et qui est fait de cette façon depuis plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire qu'on va utiliser des levures de synthèse, on va mettre des produits dans les vignes, on peut utiliser des produits en cave aussi pour, comme je disais tout à l'heure, si une fermentation se passe mal, etc. Donc, c'est un produit vraiment de l'industrie agroalimentaire lambda, donc avec tout ce qu'il peut y avoir de bien ou de pas bien. Un vin conventionnel peut être très bien fait. C'est juste qu'il peut aussi avoir plein de produits étranges à l'intérieur en plus du raisin. Ensuite, si on reste sur les labels pour rester simple, donc il y a ensuite le vin bio. Donc, c'est le même cahier des charges que pour n'importe quel autre produit labellisé bio. Donc il y a nettement moins de produits qui sont autorisés, mais on a encore le droit d'utiliser certains pesticides, certains produits de synthèse, etc. Sachant que le label bio actuel est quand même considéré comme étant avec des mailles de filet très larges et que voilà, il est pour beaucoup considère qu'il n'est pas assez exigeant et qu'il laisse passer un peu trop de pratiques négatif pour l'environnement et pour l'humain aussi, parce qu'évidemment, les gens qui sont dans les vignes, au contact de tous ces produits, ça a un impact aussi sur leur santé, comme c'est le cas aussi pour des agricultrices ou des agriculteurs. Ouais. Ensuite, on a les vins en biodynamie. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler le bio plus plus. La biodynamie a été conçue en Allemagne dans les années 20. Alors, c'est une approche très douce au niveau environnemental, mais qui est basée sur des principes du calendrier lunaire. Donc, on va respecter le calendrier lunaire pour faire telle ou telle action. On va utiliser aucun produit de synthèse. Et par contre, on va utiliser certains produits d'origine animale. Alors, dans les autres, je ne l'ai pas précisé, mais il y en a un. Mais là, souvent, la biodynamie, on la connaît parce qu'on parle de... Voilà, on va mettre une corne dans la terre ou ce genre de choses. Voilà, c'est toute la dimension un peu mystique qu'il y a. Mais de fait, ça produit des produits de très très bonne qualité et avec un impact environnemental, on va dire même positif, puisque ça encourage vraiment toute forme de vie sur la vigne. Et ensuite, en termes de labels, on a aussi, donc maintenant il y a plusieurs labels vegan aussi qui existent. Il y en a 4, si je ne me trompe pas. Donc là, le vegan. En standard, on va dire qu'il va juste faire vérifier qu'il n'y a pas de produits d'origine animale à l'intérieur du vin. Et après, on a certains qui sont un peu plus exigeants et qui vont regarder l'ensemble du vin, c'est-à-dire la colle utilisée pour les étiquettes, le fait qu'il y ait des chevaux dans les vignes ou pas. Enfin, voilà. Donc, il y a différents niveaux d'exigence sur les labels vegan qui existent. Et puis, on a aussi Nature et Progrès qui est bio. Mais qui est beaucoup plus exigeant que le label européen. Ouais. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour des labels. Et donc, tu remarqueras que je n'ai pas parlé des vins nature, puisqu'ils ne sont pas labellisés. Ouais. Il n'y a pas encore de label qui existe. C'est de l'auto-déclaratif. C'est les personnes qui font le vin qui disent « moi, je travaille en vin nature ouais. ». C'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucun produit, vraiment aucun produit, à aucun moment. Et comme je disais tout à l'heure, ils vont tout parier sur la qualité et l'attention qu'ils prêtent à leur raisin. Voilà.
Donc, un vin nature peut être bio, vegan, sauf qu'il n'y aura pas les labels.
Exactement.
Ouais. Et donc, tu le disais tout à l'heure, tu as écrit un livre qui s'appelle « Le guide Brachet des vins vegan et végétaliens ».
Ouais.
Et pourquoi avoir choisi d'ailleurs ce nom « Des vins vegan et végétaliens » Pourquoi préciser ça?
Mais parce que, comme je l'ai un petit peu abordé là juste avant, ça dépend un petit peu où on met le curseur de son véganisme. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon guide, je cite des domaines qui travaillent avec des chevaux, qui emploient des chevaux pour aller dans les vignes. D'un point de vue strictement, si on est très pur végane, ça n'est pas végane. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré dire végétalien, parce que ce sont quand même des vins qui n'ont aucun intrant d'origine animale, donc qui sont vraiment que 100% raisin. Mais voilà, il peut y avoir un cheval, ou moi, ce que je ne maîtrise pas non plus, par exemple, quelquefois, il peut y avoir un seau en cire sur le bouchon, en cire d'abeille sur le bouchon. Ouais. Ça, c'est aussi un élément que je ne maîtrise pas. Donc, c'est vraiment par honnêteté que j'ai tenu à faire cette distinction, à dire... Attention, végétalien, c'est sûr. Vegan, bon, bah, ça dépend. Voilà.
Ouais. Du coup, ce guide s'adresse à qui en particulier donc aux véganes, aux végétaliens, mais pas que.
Non, parce que il répertorie du bon vin. Donc, il peut tout à fait s'adresser à des personnes qui apprécient le vin. Il y a toute une partie au début où j'ai vraiment pris le temps d'expliquer comment on fait le vin, de bien expliquer justement là ce qu'on a abordé, les différences entre les bio, le nature, etc. Donc, quelqu'un qui a envie de mieux comprendre et de mieux savoir comment se fait le vin, la différence entre le rosé, le blanc, le rouge, etc. Là, il trouvera pas mal d'infos. Et il y a aussi toute une dimension accord mais vin. Oui. Que j'aborde, à savoir avec tel type de légumes, qu'est-ce qui va aller comme vin. Et par exemple, à chaque bouteille coup de cœur que je cite, j'ai indiqué un menu, une idée de menu, alors 100% végétalien évidemment, mais voilà, il y a toujours ce lien avec la cuisine qui est fait aussi.
Ouais. Pourquoi penses-tu qu'il est important de bien accorder les vins en cuisine végétale?
Il est important de bien accorder tout court. Mais en cuisine végétale, c'est souvent qu'on peut être un petit peu pris au dépourvu. Par exemple, dans les restaurants, si on va dans un restaurant omni qui accepte de nous faire un plat vegan, il peut être un petit peu embêté quelquefois à savoir parce que pas trop savoir quel vin recommander, parce qu'on est voilà dans les conseils classiques, ça reste très viande, poisson, fromage. Et quand on sort de là, on a un peu de mal. Et déjà, donc, apporter cette information-là, se dire que oui, les légumes peuvent très bien, les légumes, les légumineuses, etc., peuvent très bien trouver leur accord avec du vin. Et en plus, le vin peut être amené vers des saveurs nouvelles, c'est-à-dire le sortir un petit peu de l'endroit où on l'a mis à toujours vouloir mettre de la viande et du poisson, le faire se confronter à des saveurs végétales nouvelles historiquement, ça permet de lui faire découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux arômes et de l'amener vers quelque chose d'autre. Donc c'est positif à la fois pour la cuisine, ça lui apporte une dimension, il faut pas se leurrer, gastronomique importante, et pour le vin aussi, ça peut l'amener vers de nouveaux horizons aussi et faire découvrir de nouvelles saveurs.
Oui, ça peut relever les saveurs, ça peut. Et bien, ça porte bien son nom, l'accord, c'est l'association de l'un et de l'autre pour amener vers d'autres choses, ouvrir les papilles à d'autres expériences. Et pour ça, il faut que le sommelier connaisse bien son sujet, le chef aussi. C'est comment ça se travaille en cuisine, en salle?
En cuisine, c'est moi je trouve ça toujours très réjouissant de partir d'un vin et d'essayer de travailler en harmonie, d'essayer de trouver toutes les saveurs qui vont aller et qui vont s'accorder au cépage utilisé ou au caractère du vin et de construire le plat complètement avec des saveurs qui vont entrer en harmonie avec ce vin-là. Et après, en salle, c'est de l'information. Déjà l'expérience, hein, goûter, se rendre compte, et puis passer le message aussi. C'est juste un petit échelon supplémentaire à ajouter aux connaissances à avoir en salle.
C'est l'occasion aussi de parler de ces producteurs, ces viticulteurs, ces labels. De comment est fait le vin, qui intéresse pas mal de monde aujourd'hui.
Oui, parce que le vin reste un produit assez mystérieux quand on regarde bien. Il n'y a aucune information sur l'étiquette, sur ce qu'il y a dedans ou ce qu'il n'y a pas, etc. Et je crois qu'effectivement, on est de plus en plus en demande de savoir un peu d'où viennent les produits, comment ils ont été faits. Et l'intérêt de travailler, moi, je connais quasiment toutes les personnes. Un vin que j'utilise, avec lequel je travaille, je vais quasiment tout le temps connaître la personne qui l'a fait derrière. Et ça apporte aussi une épaisseur, ça permet de mieux comprendre aussi d'où il vient, pourquoi il a tel goût et pas tel autre. Enfin voilà, il y a plein de choses importantes.
Ton histoire, oui. C'est quoi les grands défis dans ces accords de vin et de cuisine végétale? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui est compliqué?
Qu'est-ce qui est compliqué? Pas grand-chose.
Peut-être pas pour toi, mais pour quelqu'un qui connaît pas très bien les vins nature, qui aimerait s'y plonger, qu'est-ce que tu veux conseiller?
Alors, ce qui est particulier avec les vins nature, il faut garder à l'esprit que c'est un produit vivant. Il n'y a pas eu des tonnes de sulfites pour tuer toute éventuelle reprise de fermentation. Donc on reste sur quelque chose de vivant, ce qui veut dire que éventuellement, quand on va ouvrir la bouteille, elle peut ne pas être bonne, ou elle va être bonne, mais dès le lendemain, elle va avoir un drôle de goût. Donc il faut l'accepter. C'est ça vraiment, se dire on est sur quelque chose de vivant qui n'est pas stérilisé, qui n'est pas neutralisé. Et qui peut continuer à évoluer. Alors, quelquefois, l'évolution est super intéressante quand on garde une bouteille, quelquefois ouverte 4 jours, au 4e jour, elle est fabuleusement, parfaite. Et quelquefois, au bout du 4e jour, c'est quasiment imbuvable. Voilà. Mais c'est la règle du jeu. Et il faut accepter. Il faut pas se dire, oh non, cette personne sait pas faire du vin. Non, c'est que c'est. Alors, bon, quelquefois, il y a des mauvais. Oui. Il peut y avoir vraiment des mauvaises surprises, mais essentiellement, la plupart du temps, c'est juste que c'est un produit vivant et que, voilà, il n'est pas normal, il n'est pas normé, il n'est pas formaté. Et c'est ça qu'on vient chercher aussi quand on vient sur du vin nature. Donc, voilà, il faut accepter cette petite prise de risque.
Donc, une différence de goût aussi qui peut plaire ou pas. Comment réagissent les clients qui connaissent pas a priori ce vin nature et qui le goûtent pour la première fois?
Moi, j'essaie de faire attention en fait à faire goûter des vins dont qui vont plutôt être satisfaisants pour le palais. Je ne vais pas aller d'emblée vers d'une nature qui peut être trop sec ou trop typée nature, mais d'aller au contraire sur quelque chose de très fruité, de très rond. Et ça, tout de suite, ça va aider à séduire la personne qui goûte le vin. En fait, c'est en amont, c'est la personne qui fait goûter le vin. C'est vrai que il faut essayer de faire attention et de pas d'emblée proposer quelque chose d'un peu trop typé. Mais ça peut être aussi quand au moment de l'achat de la bouteille, demander au caviste, voilà, dire bah c'est la première fois qu'on va boire un vin nature. Enfin voilà, la plupart des cavistes connaissent très bien leurs produits. Et vont pouvoir orienter vers un vin un peu plus facile à aborder.
C'est presque du sur-mesure, hein.
Oui, mais c'est ça qui est bien. Franchement, en plus, dans les caves spécialisées en vin nature, les gens qui travaillent là connaissent très bien les vins et les gens qui les font. Donc, ils ont envie d'en parler. Donc, il faut pas hésiter. Faut pas se dire qu'on va rester que 3 minutes dans le magasin. On va prendre le temps, on va discuter et on va pouvoir ressortir vraiment avec quelque chose de fait sur mesure, ouais, presque.
Alors, si on passe un peu côté cuisine, du coup, tu as aussi, comme tu disais tout à l'heure, ton activité de traiteur. Du coup, quel type de plat tu peux faire? Quelle est ta cuisine végétale, ton style de cuisine? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça?
Alors, bon, déjà les grands principes, donc c'est effectivement 100% végétal, c'est uniquement avec des produits de saison. J'essaie de faire au maximum, d'utiliser au maximum des produits locaux. Et j'essaye aussi de limiter les déchets. Donc voilà, ça c'est les grands principes. Mais ça, bon, il y a beaucoup. Voilà, concrètement, après derrière, qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai une influence très importante dans ma cuisine, c'est la cuisine japonaise. Alors, ça peut paraître bizarre quand on parle de. Je viens de dire que je travaille des produits locaux et je parle de cuisine japonaise, mais justement, reproduire la cuisine japonaise avec des produits locaux, c'est hyper intéressant et c'est complètement possible parce que maintenant, on trouve voilà du miso, du tofu fait en France. Enfin, il y a absolument aucun souci. Et c'est une cuisine hyper intéressante, notamment quand on a l'idée et l'envie de marier le vin avec, puisque le miso, les algues, enfin tous ces produits typiques de la cuisine japonaise développent la fameuse cinquième saveur, l'umami, qui est le goût des protéines et qui est vraiment un élément hyper important sur lequel le vin va, notamment le vin rouge, va très bien pouvoir s'accrocher. Donc c'est une trame de fond que j'aime bien garder dans ma cuisine et encore plus quand je dois accorder des vins parce que je sais que ça va beaucoup m'aider pour accorder. Donc voilà, il y a toujours une petite touche japonaise et puis sinon c'est une cuisine très curieuse. Je passe un temps fou, j'arrête. Enfin voilà, pour moi c'est un apprentissage permanent de découvrir des plats des gastronomies du monde entier. J'adore trouver des recettes qui sont, on va dire, traditionnellement végétales dans énormément de gastronomies du monde. On se rend compte qu'il y a plein de plats qui étaient depuis des siècles végétaliens. Et ça, j'aime bien retrouver ça et les acclimater. Et puis j'aime bien détourner. Par exemple, là, donc, on habite dans le sud-ouest. Donc, j'aime bien travailler le pruneau. Qui est souvent un peu, voilà, soit on fait du far au pruneau, soit on le mange au petit-déj, mais pas plus, quoi. Et moi, j'essaie de l'intégrer dans des plats inattendus et de lui montrer un peu un autre aspect du pruneau. Et en plus, c'est hyper gratifiant d'utiliser un produit qui pousse à 300 mètres de chez moi, quoi. Voilà.
Alors du coup, pour goûter ta cuisine, il faut venir dans le sud-ouest.
C'est mieux. C'est plus facile. Alors, de temps en temps, quand les virus le permettent, je suis sur Paris. Je fais de temps en temps des soirées sur Paris. Je faisais ça tous les mois jusqu'à mars dernier. Là, bon, voilà, il y a eu un petit coup d'arrêt. On va voir comment remettre ça en place de temps en temps. Parce que c'est aussi intéressant de rencontrer d'autres personnes. Mais sinon, pour l'instant, oui, c'est dans le sud-ouest.
Justement, on parle.
Précisément dans le.
Vas-y, vas-y.
Non, je disais précisément dans le Lot-et-Garonne, parce que c'est grand le sud-ouest.
Oui, Tu parlais de rencontrer des gens. Est-ce que tu t'inspires du réseau autour du végétal? On se suit tous plus ou moins. C'est finalement un petit milieu. Comment le réseau professionnel t'aide au quotidien? Comment tu t'en inspires? Qu'est-ce que tu utilises pour que ça t'apporte quelque chose au quotidien?
Pour moi, le réseau, il est important plus sur l'aspect humain que culinaire, parce que j'essaye vraiment de tracer un peu ma route en cuisine, parce que je pense que voilà, on a chacune nos appétences et nos intérêts. Par contre, au niveau humain, c'est très important de pouvoir échanger, et pas que quand ça va pas, hein, quand ça va bien aussi, de savoir parce que c'est très particulier déjà d'être à son compte, d'avoir une entreprise, c'est déjà quelque chose de particulier, et d'être en plus dans l'univers vegan. Voilà, on rajoute une couche, on va dire, à la particularité, et encore plus moi en étant dans un milieu quand même, dans un endroit géographique, comment dire, on n'est vraiment pas nombreux du tout. Pardon?
Loin de tout, un peu.
Oui, un peu. Et voilà, le réseau professionnel, il aide beaucoup à pouvoir échanger, à pouvoir parler de ses soucis, de ses réussites aussi, en sachant qu'en face, il y a des gens qui comprennent, qui vont partager aussi eux leur expérience. Et c'est plus, moi, sur cette dynamique-là où c'est hyper enrichissant que sur l'aspect culinaire à proprement parler. Voilà. Mais voilà, c'est juste mon.
C'est vrai.
Peut-être que ça changera aussi dans quelques années. C'est aussi fluctuant, hein. On n'a pas toujours besoin des mêmes éléments. C'est par rapport à là où on est de son parcours.
Ouais.
Voilà.
Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais au chef ou au sommelier qui voudrait explorer tout cet univers de la cuisine végétale, des vins nature, des accords voilà, tout ce qu'on vient d'évoquer, quel conseil tu leur donnerais?
Bon, alors je vais être déjà très pratico-pratique. Ils peuvent m'appeler, puisque moi j'accompagne les professionnels. Après, bon, au-delà de ça, en fait, il faut. Mais ça, je pense que quand on est normalement, quand on est dans ce milieu-là, on a toujours une curiosité et il faut vraiment la laisser s'exprimer au maximum, faire des tests, se dire tiens, là j'ai un chourave aujourd'hui, tiens j'ai une bouteille de X, enfin une bouteille ouverte, bah goûtons, voyons ce qui se passe, c'est bon, c'est pas bon, et être vraiment dans le ressenti presque un peu voilà spontané, et imaginer, laisser un peu sa tête imaginer ce qui est, essayer voilà d'un peu oublier tout ce qu'on a appris avant en cuisine classique tradie, et de pas avoir peur, voilà, de se dire ah mais non, on m'a dit que les endives c'était pas possible, bah si, vas-y, essaye, tu vas voir, c'est pas grave, tu vas tester. Et pareil pour la cuisine, un petit peu, bah voilà, être dans l'expérimentation et la curiosité, c'est vraiment, mais voilà, c'est bon, c'est un peu bateau, mais je pense que c'est comme ça qu'on avance en cuisine, et peut-être encore plus en végétal, quoi.
Ouais. Exact. Ils peuvent acheter ton livre aussi, bien sûr.
Tout à fait.
Peuvent aussi acheter ton livre. Dans toute bonne librairie, où est-ce qu'on peut le trouver?
Oui, librairie. Normalement, il est voilà, il est assez largement diffusé.
D'accord. Et je crois que tu nous mijotes un nouveau projet. C'est le cas de le dire, je pense. Est-ce que tu veux nous en parler?
Lequel? Non,
Celui que
celui
tu
qui.
veux parler.
Non, mais alors, il y en a plusieurs. On va commencer peut-être par le plus. Celui qui est à la fois le plus ancien et le plus difficile dont l'accouchement est le plus difficile. Hein. J'utilise le terme d'accouchement un peu, ouais, c'est pas par hasard, je pense, parce que c'est un projet avec mon compagnon et de transformation de fruits et légumes fermentés. Donc, on a créé notre entreprise qui s'appelle Alixir. Il y a déjà un peu plus d'un an, mais comme tout bon projet de création d'entreprise, ça a été un petit peu compliqué. Là, voilà, ça, on arrive à, on avance, on avance. L'idée, c'est de produire donc des fruits et des légumes, donc des légumes lactofermentés et des fruits fermentés, mais très différent de ce qu'on trouve actuellement. C'est-à-dire, on n'a pas de choucroute, on n'a pas de carottes râpées fermentées, on a vraiment une petite gamme très qualitative et très innovante, très inattendue, qui est notamment pourra être vraiment à destination des professionnels parce que c'est des produits à intégrer dans un plat qui apporte vraiment quelque chose d'hyper intéressant gustativement et nutritionnellement parlant. On travaille, voilà, que pareil avec des maraîchers, des maraîchères qui sont à moins de 20 km de chez nous, en bio. Et voilà, et ça aurait dû être lancé depuis déjà un moment, mais voilà, c'est la vie, quoi. Donc ça avance à son rythme, mais on espère bien pouvoir présenter des produits là pour Noël.
Ah, génial.
Donc voilà, et puis bah, c'est aussi l'aventure de l'entreprise à deux. Hein, et puis il paraît qu'il ne faut pas entreprendre en couple, bah voilà, nous on fait tout. Mais nous, on y croit, on a envie de faire cette expérience-là pour nous, parce qu'elle est aussi cohérente avec nos valeurs et ce là où on a envie d'aller en tant que couple aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà.
À la première version de ces produits, je peux dire que c'est super intéressant et que y a du lourd qui arrive, je pense.
Merci.
Les papilles se préparent. Bon courage à vous deux, en tout cas.
Merci.
Plein de succès pour ces nombreux projets, pour tous ces sujets très, très passionnants, surtout dans cette période compliquée pour tous. Merci à toi pour ce petit
Ben,
moment.
merci à toi aussi. C'était un plaisir.
Puis à très vite alors.
Ouais, sans problème.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre Claire sur les réseaux sociaux, sur le compte La Sauvagière, et à la contacter bien sûr pour vos conseils en vin nature et cuisine végétale. N'hésitez pas à suivre également l'Institut V sur les réseaux, à nous partager vos avis et vos commentaires, et à nous contacter si vous souhaitez rejoindre le réseau du club Institut V ou bien nous soumettre un projet. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.